Eh ben, me revoilà. Je reviens d'une petite fête pendant laquelle j'ai bu quelques verres de comment ça s'appelait déjà, ce truc? Allez, comme l'épice, la noix de muscade. Oui, du muscadet. C'est pas dégueu, mais ça passe bien, comme de la limonade. Et ça fait 15 degrés, donc c'est traître. On en boit, et puis finalement, on est vachement pompette. C'est mon cas. Alors donc, pour dépêter un peu, je vais manger un petit bounty. Et on se retrouve après le générique. Bien, on reprend. Donc, dans le dernier épisode, Charles Piton était égaré dans une vaste prairie dans laquelle un lièvre avait bizarrement disparu.
Putain, quelle galère!
Voilà, donc Charles qui avance dans cette prairie, il marche droit devant lui, cherchant quelques gibiers à trucider.
Petit.
Il avance, quittant la prairie, rentrant à nouveau dans le bois, débouchant finalement sur une autre petite clairière dans laquelle il s'arrête net, parce que il entend un étrange son. Un peu comme un destrier qui galope. Ça faisait... Charles, intrigué, se cacha derrière un tronc, tendant l'oreille pour savoir d'où venait ce son. Il repéra d'où venait le bruit. Il jeta un œil, un regard furtif, et vit apparaître un âne. Et un vieil âne. Il fut intrigué, étonné, surpris. Parce que on ne s'attend pas vraiment à voir un âne dans un bois.
Ah bon ?
C'est-à-dire que c'est pas vraiment un animal sauvage, un âne.
Ah oui, c'est vrai.
Il s'approcha de la bestiole.
Bonjour, gentil
reptile. Et il lui lança un regard interrogatif. Et étrangement, l'âne savait parler. Et lui répondit :
Bon ben, mon vieux, écoute, c'est pas personnel ou quoi, mais là, t'es un petit peu dans mon chemin. Hein, et moi, là, j'essaye de semer un brigand qui m'a racketté à mon maître. Et ça me déplaît beaucoup, cette situation. J'essaye actuellement de regagner ma demeure et tu m'en empêches en te mettant sur mon chemin. Donc, s'il te plaît, dégage, quoi. Dégage. C'est bon, dégage.
Et là, Charles, il dit, bon, ok. Écoute, je suis désolé, c'est pas non plus personnel de mon côté, mais je dois absolument ramener du gibier chez moi ce soir. Hein. Et il se trouve que t'es ici, dans cette clairière. Ce qui ressemble le plus à du gibier. Alors, désolé, tu vas devoir mourir. Et l'âne, très contrarié, lui envoya un coup de sabot dans les burnes. Dit Charles, surpris et souffrant. Oui, souffrant parce que ça fait mal. Mais il se remit vite d'aplomb et se défendit contre sa proie qui s'avéra finalement être son agresseur. Il fit tournoyer son fusil autour de sa tête et dit... Je vais me battre! Je vais me défendre! L'âne le regarda avec pitié. Et puis, se jeta sur lui et le tabassa et... Devant l'insoutenable violence de cette scène, nous préférons vous diffuser un débat d'intellectuels le temps que le programme redevienne plus calme. Merci pour votre compréhension.
Eh bien, messieurs, le débat de ce jour portera sur la série télévisée Les Feux de l'Amour. Pardon, j'ai mal lu. Les Feux de l'Amour.
Tout à fait. Oui, c'est d'ailleurs quelque chose de très intéressant, ce phénomène-là.
Parfaitement,
parce que
oui.
C'est
vous
quand
avez
même
raison,
une série
oui,
qui,
oui,
maintenant,
oui.
Comporte environ une bonne trentaine de saisons, qui a une histoire... comment dire, une histoire qui n'a ni début, ni milieu, ni fin, qui n'avance pas,
ah, oui,
avec
oui,
des personnages
vrai,
qui changent sans cesse. Et dans quel but, finalement?
Ou peut-être qu'il s'agit là, en fait, d'une œuvre financée par l'État en vue de faire mourir les... Oui, voilà, c'est ça, c'est un piège à petite vieille, pour les faire mourir d'ennui et payer moins de pension en ces temps difficiles, oui, vous ne croyez pas, non?
Oui, c'est un point de vue intéressant.
Et l'âne s'éloignait, triomphal, rentrant chez lui, alors que Charles gisait sur le sol, endolori, KO, un peu dans les vapes, en gémissant... Et il ne comprit pas trop non plus pourquoi il avait perdu un combat contre un âne, parce que c'est quand même qu'un âne, et lui il avait un fusil et il s'est fait maquer la gueule, il a rien compris. Et bon, il est dans les pommes. Et puis il entendit un autre bruit, soudain venu d'ailleurs, d'un peu plus loin, des bruits de pas, mais cette fois il semblait être humain. Et vint vers lui un drôle d'homme.
Ouais, dis mon gars, dis, je suis un brigand là, il y a mon âne qui s'est barré, tu sais pas par où il est passé?
Charles, un petit peu KO, toujours essayait de répondre, mais ne put que bafouiller. Le brigand... fut contrarié.
Eh, dis, tu te fous pas de ma gueule comme ça, hein, dis. Tu me dis où il est parti, mon âne, connard? Tu me dis, hein? Tu me le dis, hein?
Charles réessaya de formuler une réponse, mais n'y parvint pas plus que la première fois. Et au brigand de rétorquer « Putain, mais tu te payes ma gueule, tiens, prends ça, connard !»
Oh, il semblerait qu'une nouvelle scène violente ait lieu. Aussi, pour ne pas heurter les âmes sensibles, nous préférons vous diffuser un bref intermède musical.
Et voilà, le brigand s'était éloigné, marchant sur les traces de l'âne. Alors que Charles commatait.
La nuit passa, l'aube se leva, les oiseaux chantèrent à nouveau, et d'un profond sommeil, Charles sortit.
Charles s'éveilla, un peu groggy mais néanmoins en forme, reposé. Il comprit qu'il avait passé la nuit à la Belle Étoile. Il comprit aussi qu'il avait intérêt à vite attraper du gibier pour pouvoir enfin rentrer chez lui et satisfaire son épouse qu'il avait bien mérité, il faut l'admettre, condamné à subir les conséquences du comportement de loser de son mari. Ah, Charles en était désolé. Il avança à nouveau, de plus belle, avec courage, avec détermination. Il avança, et arriva au pied d'une étrange montagne. Au loin, une étrange silhouette attira son regard. Il s'en approcha. Il n'y a bout de temps, évidemment, parce qu'il se trouvait loin à la base de cette silhouette, mais il y arriva, et sa surprise fut énorme, parce que cette silhouette était en fait les cadavres d'un gros cochon bien dodu et d'une autruche. Tous les deux, ces deux créatures étaient mortes, mais fraîchement mortes. Et là, Charles eut une révélation. « Nom de Dieu !» se dit-il. « Mais c'est un bon plan, ça !» Attends un peu, ces deux corps d'animaux, je sais pas comment ils sont morts, mais ils sont tout frais, hein, comme si je venais de les tuer moi-même. Je vais les ramener chez moi, et ça va faire plaisir à ma femme. Oh, mais je suis génial! Et il le fit, il rentra chez lui, péniblement, traînant derrière lui ces deux très lourds cadavres. Mais une fois rentré à sa chaumière, sa femme sortit de la cabane pour accueillir son mari, car elle était incroyablement étonnée. Il avait réussi. Enfin, ça faisait des années qu'il n'avait plus attrapé quelque chose. Et là, en plus, c'était deux très belles prises. Une autruche grassouillette et un cochon, mais d'une taille. Mais il y avait rien pour deux semaines de viande, là. Ça allait être le festin. Elle lui sauta dans les bras. Et cette nuit-là, il fit des choses que la morale réprouve. Moralité de l'histoire. Si vous voulez épater votre femme, eh ben c'est pas facile.